Bonjour, nous revoici pour une nouvelle interview dans laquelle nous allons parler de sujets qui peuvent surprendre, peut-être à contre-courant. Nous allons parler de zones de confort, nous allons parler du fait de ralentir et peut-être parfois ne pas forcément performer. Et pour ça, j'ai le grand plaisir d'accueillir une auteure, conférencière, spécialiste du slowpreneuriat, la fondatrice de ma slow boîte et auteur de Exploite ta zone de confort. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Daudier. Bonjour Laure.
Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde.
Ravi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ces sujets qui peuvent surprendre parce que c'est vrai que nous sommes dans une société où on demande de toujours produire plus, d'aller plus vite. En plus, avec l'IA, on gagne du temps, donc on peut faire encore plus. Et toi, en fait, tu dis, il faut peut-être faire l'inverse, donc peut-être ralentir alors que le monde s'accélère. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait de dire, est-ce que oui, on peut dire oui, ça peut nous faire du bien, mais si moi je ralentis en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur, je vais être totalement dépassé. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Il n'y a pas ce risque-là aussi quelque part?
Alors, je pense que c'est plus une peur qui est justifiée et qui est cohérente, hein, dans l'environnement dans lequel on évolue qu'un risque réel. C'est que la vitesse n'est pas problématique en soi. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est la vitesse, l'excès de vitesse. Un peu comme sur la route, tu vois. C'est l'excès de vitesse et le fait que ça soit le mode par défaut. Donc, à force d'accélérer, 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 on arrive dans un extrême qui fait qu'on ne voit plus les choses, on fait plus d'erreurs. Ça nous flingue la santé. Enfin, il y a beaucoup de conséquences qu'on connaît aujourd'hui de cette accélération. Et donc, quand moi, je propose de ralentir, ce n'est pas l'idée de partir dans un extrême inverse et de se retrouver dans une lenteur extrême, ce qu'on a tendance à associer à l'idée de slow. C'est plus revenir à quelque chose de soutenable qui va nous permettre de se poser les bonnes questions, d'agir au bon endroit et finalement de ne pas se faire dépasser parce qu'on va pouvoir voir aussi dans quelle direction aller. Et je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui se font dépasser par des décisions précipitées, par aussi des ralentissements subis. Hein, quand tu as beaucoup accéléré et que tu te retrouves en incapacité de travailler, là, tu as un ralentissement qui est non organisé, qui est subi et ce n'est pas du tout le même vécu. Et là, tu peux effectivement avoir ça. Donc, c'est un rééquilibrage. Pour préserver aussi, je pense, une des ressources les plus précieuses qu'aujourd'hui on ignore trop, c'est la capacité des gens, la santé, l'énergie. Donc, de mon constat, en général, ça apporte beaucoup plus de bien que de ce cliché de on va se retrouver derrière tout le monde, complètement à la ramasse. C'est pas ce qui se passe dans les faits.
Ça, c'est quelque. Donc oui, les avantages. Donc si je comprends bien, c'est avantages en termes de santé, en termes de prise de recul, en termes de prise de décision, en termes d'analyse et finalement de mieux gérer les risques, de pas avoir des risques de faire des erreurs qui finalement nous font perdre encore plus de temps que si on avait investi le temps, de
Exactement.
prendre le temps finalement pour éviter cette erreur. Et ça, je vois vraiment très bien. Comment le faire quand on est entrepreneur, mais quand on est manager, on est pris par la hiérarchie, on est pris par nos équipes. Comment déjà c'est possible pour un manager d'oser ralentir soi et surtout, comment on peut être un manager qui autorise ou qui encourage son équipe à ralentir?
Alors, je crois qu'on a un vrai sujet avant tout culturel. C'est-à-dire que c'est pas que dans les faits, ça soit impossible, mais par contre, c'est pas du tout dans notre culture encore, puisque notre culture, elle est plus dans l'accélération et dans toujours chercher plus et plus vite. Et c'est ça qui bloque le plus. Parce que quand on est manager, admettons, on prend le cas d'un manager, en ce moment, on sait que c'est compliqué, par exemple, dans beaucoup de boîtes, donc il peut y avoir une pression de la direction aussi pour avoir de la performance. Et en même temps, on a des équipes qui sont fatiguées, on peut être dans cette espèce d'entre-deux où on se demande comment on va pouvoir combiner les deux. Et s'il y a des exigences de la direction qui nous disent qu'il faut trouver un moyen d'être performant, on pourrait être tenté par culture et par réflexe de se dire, bon, ben, on passe vite sur les problématiques humaines et puis on va rechercher de l'efficacité, des outils comme l'IA et puis on va mettre ça là-dessus. Mais je crois qu'une question qu'on ne se pose pas, parce qu'encore une fois, on a ces réflexes-là, c'est est-ce que ma direction, elle m'a imposé des choses sur le résultat ou sur la méthode que j'emploie pour utiliser ce résultat? D'accord? Et en fait, quand on parle de ralentissement, de prendre le temps de réfléchir, quand on prend le temps de l'interaction, de co-construire les solutions, etc., ce sont des choses qui demandent de l'espace et du temps, mais c'est souvent un temps qu'on récupère derrière parce que, comme tu l'as dit, on fait moins d'erreurs, on perd moins de personnes en route, etc. Donc, finalement, sur les résultats, on n'a pas forcément un résultat qui arrive plus tard. Alors, il y a des fois aussi où ce n'est pas grave que le résultat arrive plus tard. Hein. Il y a différentes échelles de temps, je pense qu'il y a ça aussi. Mais ce que je constate, moi, c'est surtout beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on attend d'eux une certaine manière de faire, là où la plupart du temps, en fait, on attend un résultat. Alors après, il peut y avoir des boîtes aussi où il y a une direction qui est très regardante sur la manière de faire. Et dans ce cas-là, il y a des conversations à avoir. C'est clairement de la négociation, hein, et des échanges et des discussions sur quelles sont les possibilités. Et je nie pas que ça existe. Mais je crois qu'il y a bien des cas où, parce qu'on nous met la pression, on se dit que la solution doit forcément se faire aussi dans la rapidité, la vitesse, etc. Donc déjà, une première chose, se demander, est-ce qu'on regarde la manière dont je vais le faire ? Quelles sont les marges de manœuvre et de liberté que j'ai là-dessus ? Ou est-ce que je ne suis pas, par habitude, par culture, en train de m'imposer une manière de faire qui nécessite aussi de la vitesse, de la précipitation, etc. Après, comme je disais, il y a aussi différentes échelles de temps. Est-ce qu'on me demande d'aller vite sur des tâches au quotidien ? Est-ce qu'il s'agit de projets de plus grande ampleur ? Et on peut aussi naviguer là-dedans. Et il y a aussi des questions qu'on ne se pose plus. Typiquement, tu l'as dit en introduction, un de mes sujets phares, c'est la zone de confort. C'est un super outil aussi pour atteindre des niveaux d'excellence, s'il faut, en économie d'énergie. Bah aujourd'hui, on a beaucoup de managers qui n'ont plus l'espace pour aussi se poser des questions sur, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des manières de travailler en coopération avec mes équipes qui soient différentes, qui intègrent la santé, qui intègrent aussi ce qu'ils font le mieux. On le sait, hein, je veux dire, c'est pas nouveau de dire qu'il faut s'appuyer sur les points forts des gens. C'est des choses qu'on sait depuis longtemps, mais qu'on a beaucoup de mal encore à incarner.
Et donc, tu n'as pas le sentiment quelque part, enfin, déjà c'est super intéressant que finalement, on est dans une société où on est de plus en plus souvent, constamment en inconfort quelque part.
Complètement.
Du coup, ça ne génère pas ce problème. Bah,
c'est ça, pour être très... très pragmatique, tout l'inconfort qu'on vit, alors qui n'est pas que de l'inconfort dans le travail. Vivre en 2026 constitue déjà, à plein d'égards, une source de stress chronique pour la majorité d'entre nous. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde pas trop, on veut pas trop le voir, ça. Pourtant, on a énormément d'indicateurs, et dans le monde du travail, on en a plein sur le désengagement, sur l'absentéisme, sur le nombre de burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, les conséquences, elles sont vraiment là, mais on ne veut pas trop regarder sous le tapis aussi et de comment on en est arrivé là. Et donc, on essaye de mettre des solutions. Tu sais, on met des pansements sur des plaies ouvertes, quoi. On soigne les symptômes, mais on n'en est pas encore à aller regarder le fait que on a un système dans le monde du travail qui est à l'origine de ça, qui n'a pas été pensé à l'origine pour prendre soin des gens, parce qu'il n'y avait pas les mêmes problématiques non plus, il y avait d'autres époques. Et on continue à appliquer un petit peu les mêmes recettes, alors qu'on a besoin de revoir... On a besoin de revoir beaucoup de choses, et notamment le fait que un humain aujourd'hui, si on prend en France, qui travaille, il peut même avoir une super boîte qui est avec un bon management et vraiment un très bon contexte de travail, mais ça n'empêche pas qu'il peut être extrêmement stressé par les sursollicitations qu'il vit sur son téléphone, par des problématiques familiales, par de l'anxiété généralisée. Enfin, tu vois, c'est très multifactoriel. Et en même temps, typiquement, les managers, c'est à eux qu'on dit « Bon, débrouillez-vous, il faut que les équipes, là, avec tout ça, elles soient performantes. » Et les managers, ils vont pas pouvoir tout résoudre. Par contre, de prendre le temps de se demander, ne serait-ce que ça, de se dire « Dans tous les problématiques que rencontrent mes équipes, qu'est-ce qui est dans le pouvoir, déjà dans mon pouvoir, à moi en tant que manager, dans le pouvoir de mon entreprise, et qu'est-ce qui n'est pas du tout dans nos mains ?» Qu'est-ce qui est lié à la société ? Qu'est-ce qui est lié peut-être au secteur d'activité ? Des choses comme ça. Et déjà, de choisir d'agir sur les choses où je vais vraiment avoir un impact. Et puis, les choses sur lesquelles je n'ai pas d'impact, je ne vais pas forcément pouvoir les changer. Mais par contre, je peux en tenir compte. Quelqu'un qui travaille en 2026 et qui a déjà un niveau de stress très élevé, parce que comme tu le dis, des sorties de zone de confort, on en subit tous les jours. On ne peut pas attendre de cette personne qu'elle ait qu'elle puisse faire les mêmes choses, qu'elle ait les mêmes capacités, qu'elle soit performante avec les mêmes outils que quelqu'un qui travaillait même en 2005. Et aujourd'hui, c'est ça, je pense, à côté de quoi on passe. Encore une fois, c'est pour ça que je dis, on est tellement dans cette hyper vitesse qu'on n'a plus l'espace pour réfléchir à ça. C'est qu'on n'a pas encore adapté, je crois, la manière de travailler, la manière de manager, la manière de voir l'humain dans l'entreprise à notre époque. Et on a tendance à hyper responsabiliser, du coup, chaque individu. C'est-à-dire que c'est un peu la réponse facile de dire, bon, bah, débrouillez-vous pour ne pas faire de burn-out, prenez soin de vous, le fameux prenez soin de vous. Oui, voilà, les circonstances sont plus compliquées.
C'est un des reproches, entre guillemets, que l'on pourrait, ou des dérives, justement, des soft skills, entre guillemets. On dit, bah voilà, développez vos soft skills, le système ne change pas, et finalement, toute la responsabilité, la comptabilité ou l'imputabilité en français repose sur la personne pour ne pas perturber le système. Alors que là, toi, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas travailler que sur les personnes, que sur le manager et que sur l'équipe. Il faut aussi travailler sur le système parce que c'est le système qui peut générer ces problématiques qui finalement sont contre-productives. En fait, c'est ça le paradoxe.
C'est toute l'ironie.
On veut aller plus vite, on veut innover, sortir de sa zone de confort, etc. Ouais. Mais au final, ça génère plus de problèmes, plus de risques, d'erreurs, etc. Et un autre truc aussi que je voulais lui dire, c'est la deuxième idée, j'ai peur de la perdre, je ne l'ai pas perdu. C'est comme on va plus vite et par rapport au fait de prendre moins le temps, de prendre du recul ou de prendre des décisions plus réfléchies, plus stratégiques, ça fait penser aux travaux de Daniel Kahneman, système 1, système 2.
Oui,
bon, en fait, finalement, on est dans une société où on est dans un système de pensée dans l'urgence, réactif, impulsif, etc.
Oui.
Et finalement, on a beaucoup moins d'opportunités, où on a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à utiliser le système lent, justement, où on peut faire du deep work, on peut prendre plus de temps de réfléchir, de structurer les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre aussi en jeu dans cette notion de performance, entre guillemets, d'atteindre des résultats que finalement, on n'en atteint pas forcément aussi bien ou aussi souvent parce qu'on est toujours dans ce système de pensée réactif plutôt que ce système de pensée en mode deep work?
Bah, c'est pour ça que je parle de la culture, parce que le fonctionnement système 1, système 2, effectivement, les décisions et les réflexions qu'on va avoir donc en système 2 qui permettent quelque chose de plus réfléchi, c'est aussi quelque chose qui nous prend plus d'énergie. Quand on n'a plus cette énergie-là, c'est normal d'aller vers des réflexes. Et donc, quand on a grandi et évolué professionnellement dans un environnement qui nous a rabâché pendant des années que le réflexe à avoir, c'est la performance, c'est le toujours plus vite, etc., en fait, c'est aussi notre... C'est toute l'ironie de la chose. Par économie d'énergie, parce que notre système nerveux, notre corps, notre cerveau ne sont plus trop capables d'autre chose, il va chercher les réflexes. Et c'est de ça, donc quand je dis on passe à côté du coup de certaines choses comme qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans la zone de confort, comment on pourrait aussi petit à petit faire changer le système, faire changer la culture, tout ça, ce sont des choses qui prennent de l'énergie, du temps, ressources qu'on n'a plus trop aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette difficile équation à résoudre de comment petit à petit on arrive à regagner un peu d'énergie pour aller rechercher d'autres solutions aussi qui vont être plus bénéfiques et petit à petit changer nos habitudes, changer nos réflexes, changer notre culture pour que bah, finalement notre système 1 il nous amène plus vers des manières de faire qui soient bénéfiques pour l'humain, pour sa santé et donc forcément pour la performance des entreprises. Et aujourd'hui, on est complètement dans l'inverse et ça, c'est un problème qui est global. C'est pour ça que l'hyper-responsabilisation, c'est je suis d'accord avec toi. En fait, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a vraiment à un moment donné un côté de ça fonce forcément dans le mur. Donc, en voulant éviter justement de foncer dans le mur, voilà, on veut éviter de foncer dans le mur en étant lancé à 360 km/h sur l'autoroute avec un mur en face. C'est un peu ça.
Oui, et c'est vrai qu'on a discuté aussi dans le cadre de l'interview que j'ai réalisée de toi pour mon prochain bouquin sur l'hyperconnexion. Tu parlais de justement cette analogie d'aller à fond la caisse sur l'autoroute et de ne pas voir les dangers et avoir plus de difficultés à freiner. Alors que si on prend plus de temps, on est plus agile, on peut plus facilement contourner les obstacles, s'adapter, voir ce qui se passe. Et je trouvais cette analogie très parlante. Et alors oui, c'est vrai que c'est important de travailler sur le système. Et en même temps, je me dis, il y a quand même peut-être des choses à titre individuel qu'on peut mettre en place pas attendre que le système change et de compter sur les changements du système, mais aussi, nous, à notre niveau individuel ou à notre niveau de leader ou de manager, pouvoir mettre des choses en place. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, voilà, que tu as identifiées qui peuvent aider à ça? Moi, je pense, par exemple, je ne sais pas si c'est une idée qui me vient, mais si je veux ralentir, peut-être avoir des échéances plus longue et pas tout à chaque fois faire des trucs ultra rapides, toujours à la dernière minute. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ça à titre individuel qui peuvent déjà aider à impulser une forme de changement et peut-être pourquoi pas, par effet papillon, inspirer un changement au niveau systémique?
Oui. Alors déjà, la première chose qui est à me répéter, c'est d'identifier sur quoi j'ai du pouvoir d'agir. Sur quoi je peux avoir de l'impact, qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et encore une fois, je pense qu'on passe beaucoup on met beaucoup d'énergie et de temps à essayer d'influencer des choses en fait sur lesquelles on n'a pas d'influence. Et à l'échelle individuelle, évidemment qu'on peut faire des choses, et la première chose moi que je dis aux managers avant de s'occuper de leurs équipes, c'est de s'occuper d'eux. Parce que justement, tu vois, tu reparlais des soft skills tout à l'heure, évidemment que ce sont des choses essentielles dans le monde du travail au même titre que les compétences plus techniques, mais ce sont aussi des compétences qui sont très fragilisées et empêchées par le stress chronique. Donc, si on veut être un manager qui soit plutôt dans le care management, qui soit soucieux de ses équipes, qui sache faire preuve d'empathie, de créativité pour trouver des solutions, d'écoute, d'aller générer de la confiance, de prendre le temps, ce n'est physiologiquement pas possible quand on est en stress chronique. Parce que si notre système nerveux il est en train de se protéger, il est incapable d'être tourné vers l'autre. Donc aujourd'hui, typiquement, et je crois que c'est un des gros points morts sur ce grand sujet, tu vois, aussi de la santé au travail, c'est qu'on essaye de mettre en place des choses pour les équipes, mais on occulte, dans bien des cas, complètement les personnes qui sont censées apporter ce soin-là, que ce soit les managers, les cadres, les directions aussi, hein, comme si, en fait, c'est un peu des surhumains, c'est un peu différent, parce que quand on est chef de quelque chose, bizarrement, on deviendrait super résistant au stress, avec pas la même physiologie, mais c'est pas la vraie vie, ça. Donc, la première chose, c'est déjà de voir ce qu'on peut faire pour soi, parce que pour être capable de faire des choses pour les autres, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je crois qu'il y a une question de vision de la santé aussi, parce que tout ceci est très lié à la santé et la capacité. Encore une fois, si on veut pouvoir continuer à avancer, non pas dans la précipitation, mais à un rythme plus soutenable, on a besoin d'énergie, on a besoin d'être capable, et donc ça vient toucher notre santé. Et je trouve qu'on voit encore, en fait, on voit dans le monde du travail la santé comme un dommage collatéral. Là, on en parle beaucoup ces derniers temps parce qu'on constate à quel point ça empêche la productivité et la performance, donc on s'y intéresse, mais c'est un dommage collatéral, c'est un problème à résoudre. Et quand tu entends des trucs du genre « mettre l'humain au centre », sur le papier, oui, mais en fait, la question qu'on se pose, c'est, bon, on fait nos projets, et puis on essaye de faire attention à ce que ça abîme pas trop les humains. Donc, c'est toujours un truc à côté, alors que finalement, et c'est aussi, tu vois, quelque chose qui distingue l'approche du slowpreneuriat par rapport à d'autres approches entrepreneuriales, c'est que la santé, c'est le paramètre principal. La santé globale, c'est le paramètre principal et on construit autour de ça, ce qui n'empêche pas de mener des projets, etc. Mais c'est un ordre de priorité qui est très différent. Et donc, je crois qu'il y a aussi, ça c'est notamment s'ils veulent pouvoir être capables de laisser plus d'espace et d'accepter le ralentissement aussi de leurs équipes, c'est enlever cette dissonance cognitive de si les gens prennent plus de temps, ils vont faire moins bien les choses. Mais non, si les gens prennent plus le temps, encore une fois, ils ne vont pas tomber dans un excès inverse de « je ne vais plus rien faire ». Je pense qu'il y a aussi un sujet de confiance hein, là-dessus. Mais laisser plus de temps, c'est permettre à la personne d'être en meilleure santé, de pouvoir exprimer plus de choses, de pouvoir mettre plus de dialogue, etc. Mais ça demande de transformer petit à petit ses croyances aussi par rapport à ça. Et ça, c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est normal aussi, je crois, que dans des premiers temps, on trouve ça bizarre. Je crois qu'il faut le normaliser aussi, de se dire « je mets en place ça pour mes équipes ou pour moi et je ressens peut-être de la culpabilité, j'ai peut-être peur que ça échoue. » C'est normal. C'est un énorme renversement de vision des choses et ça passe. Quand on commence à voir les conséquences, etc., ça rassure et ça fait évoluer les choses. Et puis après, moi, ce vers quoi j'envoie, c'est aussi de s'intéresser de près à ces histoires de zone de confort qui est très différente de la zone d'habitude. On la confond souvent avec ça. Une sortie de zone de confort, c'est pas juste faire un truc nouveau. C'est vraiment une zone qui est neutre d'anxiété, dans laquelle on se sent en sécurité et en maîtrise. C'est ça la définition de la zone de confort. Et ça contient...
Alors que la zone d'habitude...
La zone d'habitude, ça peut amener ça. Il y a certaines habitudes qui peuvent amener ça, mais pour autant, ça dépend vraiment des gens et tu peux expérimenter des choses nouvelles dans lesquelles tu ne vas pas spécialement te sentir insécurisé, en manque de ressources, en manque de maîtrise. Et ça ne va pas toujours te rendre anxieux. Il y a des choses nouvelles qui vont te rendre anxieux. Moi, demain, tu me demandes de sauter à l'élastique. Clairement, c'est nouveau, je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas du tout envie d'y aller et je suis en dehors de ma zone de confort. Mais... tu me lances, tu me fais découvrir un nouveau sujet d'intérêt sur lequel il va falloir que je me forme. Je me sens pas du tout anxieuse à l'idée de me former à un sujet qui peut m'intéresser. Je me sens pas en manque de maîtrise parce que je sais que je suis capable d'apprendre. Enfin, tu vois, on a vraiment confondu les deux, alors ce sont deux choses différentes.
Alors, si je comprends bien, je trouve ça intéressant, la nuance. La zone d'habitude, c'est le train-train quotidien qui me maintient d'une certaine manière dans une forme de statu quo, oui. et qui est peut-être incluse dans cette zone de confort qui est peut-être un peu plus large parce que je peux sortir de ma zone d'habitude tout en restant dans ma zone de confort, mm-hmm. en me sentant secure, safe, etc. et avoir de la croissance, avoir de la stimulation sans chercher à devoir absolument sortir de ma zone de confort et dans l'inconfort pour pouvoir être stimulé et grandir. C'est ça que
tout à fait. Et en fait, c'est même pas que la zone d'habitude est incluse dans la zone de confort. C'est pour ça que je dis que c'est à côté parce qu'on peut tout à fait avoir des habitudes qui sont en fait des choses qui nous maintiennent dans une situation anxiogène où on se sent en insécurité, en maîtrise. Donc, au contraire, il y a parfois, tu sais, j'entends quand il y a des personnes qui sont un peu bloquées dans des postes où en fait ils sont pas bien, etc., et qu'ils ont du mal à passer le cap de changer parce que le changement, ça demande de l'énergie aussi, c'est une autre source de stress, on va dire, où on dit il faut oser sortir de sa zone de confort, en gros faire autre chose. Mais non, en fait, c'est peut-être plutôt y retourner, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas dans notre vie, à titre perso aussi, où au contraire, on est un peu coincé dans une zone d'inconfort parce qu'on manque de ressources, on manque parfois d'énergie ou de support pour traverser ce changement-là. Mais c'est pas rare d'être coincé dans une zone d'inconfort par habitude. C'est pour ça que c'est important de bien distinguer les deux et que je repose la définition originelle. Et surtout, comment, une fois qu'on a parlé de cette définition, qu'est-ce qu'on regarde dans le travail ? Souvent, on va avoir tendance à résumer aussi la zone de confort à ce qu'on appelle la zone de génie, tu vois, tes talents, ton mode de fonctionnement, etc. Ça fait partie de la zone de confort et c'est de ça qu'on parle quand on dit qu'il faut s'appuyer sur les points forts des gens, mais ce n'est pas que s'appuyer sur les points forts, c'est aussi comprendre comment leur cerveau est câblé et est-ce que les méthodes de travail avec lesquelles on les fait travailler, elles sont compatibles. Est-ce qu'il n'y a pas des marges de manœuvre aussi où chacun peut avoir un peu de marge de liberté pour faire un peu plus les choses à sa sauce tant que le résultat est là, tant que ça colle avec l'ensemble du projet et les autres membres de l'équipe, quelles sont les marges ? Mais dans la zone de confort, moi, je mets trois autres dimensions. La santé. Quand on n'est pas en bonne santé, on travaille moins bien et on est plus en insécurité et on est plus anxieux et on maîtrise moins. C'est pour ça que je dis que c'est primordial. Ouais. À la fois, tout ce qui va permettre, dans la mesure de ce qu'on maîtrise, de préserver la santé, mais aussi tenir compte de l'état de santé des gens, selon l'état de santé des gens, selon les périodes ou selon leur vécu, les capacités ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de capacité, ça veut dire que le chemin pour obtenir un résultat est nécessairement différent. Et justement, la zone de génie peut permettre de trouver des ressources où la personne va pouvoir exceller alors que ça ne lui demande pas d'effort. Donc, ça, tu vois, les deux viennent se compléter. J'y mets la notion de sécurité, donc c'est la sécurité financière souvent, mais ça peut être aussi la sécurité émotionnelle. Est-ce que je suis dans un environnement où je me sens en sécurité pour exprimer des choses, pour faire des demandes? Et ça, typiquement, il y a beaucoup de managers pris un peu en sandwich qui manquent de sécurité à ce niveau-là. Et puis, il y a une quatrième dimension qui est celle de la fluidité, dans le sens où les choses coulent, et là, ça parle autant de la charge de travail, il y a aussi un gros sujet là-dessus, et est-ce que je travaille avec les personnes qui sont compatibles avec moi? Est-ce que je travaille avec les méthodologies qui sont compatibles avec mon mode de fonctionnement? Donc, il y a plusieurs dimensions, mais d'aller regarder tout ça. Quels sont les besoins, ses besoins à soi? Est-ce que la manière dont on fait notre métier, est-ce que le contexte peut être adapté pour que ça me corresponde plus? Ça change énormément de choses. Et dans des équipes, d'aller regarder ce qu'il y a dans les zones de confort des différents membres d'équipe, ça permet de se poser la question, les projets sur lesquels on travaille ensemble, elles sont où les marges de manœuvre? Où est-ce que chacun peut avoir un peu de marge? Ce n'est pas forcément un idéal quand il y a une équipe, parce que on collabore, hein, donc on fait toujours de l'entre-deux, mais il y a plein de marge de manœuvre qu'on peut trouver où, en fait, on peut laisser un peu plus de souplesse aux gens pour qu'ils adaptent les choses en fonction de leur zone de confort. Et ça, une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est souvent ça qui permet d'avoir plus d'efficacité, plus de dialogue, plus de confiance. Et encore une fois, c'est une manière de travailler en économie d'énergie sans sacrifier la qualité. Donc, c'est quand même pas mal. C'est bien, on en a bien besoin ces temps-ci.
Ouais, finalement, ouais, c'est vraiment du gagnant-gagnant-gagnant. Gagnant pour le collaborateur ou la collaboratrice qui se trouve dans cette zone de sécurité, de génie, de fluidité et que là, tous les éléments pour être performante, ce qui rend le manager gagnant parce qu'il a une équipe qui performe, qui est bien, qui sent bien, etc. Oui. Et du coup, l'organisation qui est gagnante à ce niveau-là. Et il y a un mot-clé que c'est important pour toi, que l'on n'a pas mentionné et qui, je pense, peut aussi encourager les managers, les dirigeants à oser ralentir, à oser revenir dans la zone de confort, qui est la robustesse.
Tout à fait.
En quoi ralentir ou en quoi revenir à cette zone de confort rend les individus plus robustes et donc aussi les organisations également?
Alors effectivement, exploiter sa zone de confort, c'est à l'échelle individuelle ou à l'échelle des équipes un levier de robustesse qui est énorme parce que donc la robustesse, juste pour replacer, c'est si je reprends la définition d'Olivier Hamant, qui est le biologiste qui en parle le plus en France, en tout cas qui démocratise cette notion, c'est maintenir le système viable à court terme et stable à long terme malgré l'environnement fluctuant. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous compris qu'on était dans un environnement particulièrement fluctuant et incertain. C'est pour ça qu'on essaye petit à petit de lâcher le culte de la performance, qui, lui, a besoin de stabilité, pour passer à la robustesse. Et la robustesse, le but de la robustesse, c'est d'être adaptable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est la réalité de notre époque. Mais on essaye d'avoir des organisations et des humains qui sont adaptables. Pour être adaptable, on a besoin de différentes ressources multiples, diversifiées. Et donc, ce sont des ressources qui a besoin. Donc, là aussi, on a besoin de temps pour constituer ces ressources. Des ressources, ça peut être des compétences, ça peut être des liens, ça peut être des relations. On a besoin aussi de comprendre et de commencer à voir les choses de manière systémique, c'est-à-dire regarder les interactions entre les choses, arrêter de juste mettre des pansements sur des symptômes et d'aller rechercher à quoi c'est lié. Donc, ça aussi, c'est un gros changement de façon de faire. Et on a besoin de mettre beaucoup plus de temps sur la partie interaction. Donc, c'est un vrai renversement d'un monde du travail qui est très sur le quantitatif, le rationnel, le mesurable. Et on commence à se rendre compte que ça a ses limites et qu'on a besoin de rééquilibrer avec aussi plus de choses qui sont plus humaines, mais aussi moins rationnelles, moins directement liées à un résultat, etc. Donc, tout ça, ce changement-là prend pas mal de temps, mais la zone de confort, en fait, le gros avantage, c'est que, comme je disais, c'est pour ça que j'utilise le terme économie d'énergie, on se préserve en travaillant comme ça. Et ça nous permet de nous dégager de l'énergie et du temps pour aller constituer ces ressources, de l'énergie et du temps pour aller maintenir ces liens, pour garder de la créativité. C'est vraiment une époque où on a besoin d'être très créatif. Et ça permet, quand il y a des urgences, quand il y a des crises, parce qu'il y en a régulièrement, et la performance est là qu'on a besoin de la sortir, non pas en mode automatique, mais dans des situations d'urgence, c'est comme ça que fonctionne le vivant aussi, la performance, ça prend de l'énergie. On a besoin d'avoir du stock. Et donc, si on veut avoir une équipe qui est capable, quand il y a un coup de bourre, quand il y a une problématique, quand il y a besoin d'être hyper réactif, si on veut avoir une équipe qui soit capable d'y répondre, sans que derrière, il y a un contre-coup qui fait que l'équipe, elle n'en peut plus, on a besoin que le reste du temps, quand il n'y a pas de crise, quand il n'y a pas d'urgence, en fait, que l'équipe, elle soit capable de faire correctement son travail en économie d'énergie, en allant développer ses liens, ses ressources, ses capacités, etc., pour avoir à la fois les capacités le moment venu d'être performante et aussi la matière. Donc, c'est vraiment un outil. En tout cas, moi, j'essaye d'amener comme un outil de robustesse à l'échelle de l'individu, au bénéfice de l'individu, parce que les organisations, moi, je veux bien qu'on parle de robustesse des organisations, mais j'aimerais bien qu'on même si le but c'est de sortir de l'individualisme, mais qu'on n'oublie pas les individus pour autant, parce que ça ne peut pas marcher sans. C'est vraiment un outil qui est applicable et peut-être, j'ai l'impression, plus accessible facilement, entre guillemets. Je dis, il n'y a rien qui est facile, mais c'est accessible à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'équipe, alors qu'il y a beaucoup de transformations dans nos organisations qui demandent aussi qu'il y ait plusieurs organisations qui s'y mettent. Enfin, tu vois, c'est des enjeux tellement gros que, encore une fois, on peut participer, mais à nous seuls, on ne peut pas influencer. Que là, c'est quelque chose dont on peut se saisir beaucoup plus facilement.
Super intéressant, c'est passionnant tout ça et en même temps, à la fois c'est désagréable en fait de prendre conscience de ça. C'est pas grave de se dire c'est vrai que on est quand même dans une société qui ne peut être maltraitante entre guillemets de manière globale en étant tout le temps en inconfort et donc pas sécure, pas safe, etc. Et en même temps, il y a des choses que l'on peut faire, des choses que l'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour avoir un début de changement positif dans tout ça. Et moi, je trouve ça très, très inspirant et que quand on est manager, on a aussi une responsabilité, une posture de leader et on peut tout à fait impulser ce changement-là aussi à notre niveau.
Complètement. Oui, et puis ça donne de l'espoir.
Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Laure. Est-ce qu'il y a un message très important pour toi ou une astuce que tu aurais voulu partager dans cet échange que tu n'as pas encore pu partager?
Encore une histoire de perception, mais je crois que ça fait depuis le siècle des Lumières, je pense qu'on a commencé à faire passer l'intellect un petit peu au-dessus du corps. Et le corps, c'est un peu ce grand cousin un peu balourd qui nous arrange pas, tu sais, qui fait, on le voit un peu comme ça, le corps il est pas pratique, il tombe malade quand il faut pas, on a une vision quand même du corps qui est pas très sympa et on est très dans le mental et peut-être commencer à comprendre que le corps c'est le boss final quoi. Et il passe son temps à nous alerter, il passe son temps à envoyer des signaux et que on a un vrai sujet d'arrêter d'être de le considérer comme quelque chose de pénible alors que c'est vraiment il passe son temps à nous dire, alors là, ça ne va pas, à nous alerter de plus en plus fort et prendre soin de ça, du repos, de la récupération. Tu vois, on adore comparer les managers, les dirigeants aux sportifs de haut niveau, aller discuter avec des sportifs de haut niveau de la récupération et du soin du corps. Je pense qu'il y a d'autres leçons à apprendre que le dépassement de soi là-dedans.
Ah oui, de toute façon, c'est comme pour la construction du muscle. Hein. On dit, il faut faire de l'effort, mais en fait, la construction musculaire se fait au repos.
Et puis quand on stresse le muscle, il y en a qui confondent l'hormèse. Oui, mais alors le cerveau, c'est pas un muscle. Déjà, ils parlent de l'hormèse. Oui, mais en fait, on stresse. Il y a des sujets de terminologie aussi, mais on ne dépasse pas ses limites. Si on dépasse ses limites, on se blesse. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire au niveau cognitif, et ça a des conséquences sur le corps aussi. Et au niveau, même pour des métiers physiques, on est tout le temps en train de dépasser les limites parce qu'on ne veut pas accepter que l'humain est un être biologique, organique, qui a des limites. Et on ne sait plus faire avec. Et c'est ça, vers ça qu'il faut retourner, faire avec nos limites. Il y a beaucoup de potentiel à faire avec nos limites.
Et surtout si on le fait ensemble, avec notre diversité, nos complémentarités, nos zones de confort différentes et complémentaires.
Mais oui.
Et c'est ça la force aussi du collectif et du rôle du manager-leader qui arrive à composer avec tout ça.
Complètement.
Merci beaucoup, Laure. Donc, pour les personnes qui veulent te suivre, donc on va mettre le lien vers ton profil LinkedIn et également le lien vers aussi ce que tu proposes en termes de conférences. Donc, si vous êtes intéressé par les travaux de Laure, veuillez voir ces deux liens qu'on met en dessous de la vidéo. Et sinon, si vous voulez avoir cette interview, comme toutes les autres interviews du Sommet Manager Demain, en format MP3, si vous voulez également la synthèse visuelle de cette interview, eh bien, pensez, si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire au Sommet Manager Demain. Comme ça, vous pourrez récupérer tout cela. Merci beaucoup, Laure, et à très bientôt.
Merci, Jérôme. À bientôt.